Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie?
Ils font du vin avec du raisin.
Et t'es content qu'ils fassent du vin?
Mais bien sûr.
Bonjour, bienvenue du raisin des papys.
Ah, c'est presque ça. Moi, je trouve qu'il y a, hein, bon, c'est dans du raisin et des papys, mais c'est presque ça. Merci. C'est quoi ton prénom?
Mathis.
Et toi, tu dis bonjour aussi?
Bonjour, je m'appelle Elias. J'aime bien que papa et maman font du vin.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Attendez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Angela Prado, ou Angela Prado. Je viens de Colombie, de Bogota, de la capitale. J'ai atterri à Rennes il y a 14 ans. Après avoir travaillé un peu à la capitale française où je croyais que je voulais être, j'ai rencontré mon charmant futur mari Gila Moritz, qui avait déjà comme projet partir faire du vin en Roumanie. Donc j'ai quitté la France, j'ai quitté les finances pour aller m'installer en fin fond de la Roumanie avec lui, par amour, et aussi pour un projet en commun. On avait comme projet nous installer en Alsace plus tard, on va en Alsace, en France en tout cas, pour faire nos vins à nous. Donc après, voilà, comme ça a commencé pour moi en France en tout cas.
Donc le vin a toujours fait partie de l'histoire.
Oui,
dans une tête, dans la tête.
Oui, voilà, j'étais une très bonne consommatrice.
D'accord.
Et après, avec Gila, on va dire, j'ai appris évidemment un peu à... Enfin, j'ai appris un peu les choses qui allaient autour de ça, mais je voulais pour moi aussi rendre ces projets à moi. Donc, j'ai fait des études aussi un peu plus tard pour, on va dire, m'approprier d'un projet qui était à la base à mon mari.
Mmh.
Mais je ne voulais pas passer d'être la fille d'eux à la femme d'eux, donc... j'ai fait des études, on était en Roumanie, en Bourgogne, donc je m'ai déplacée pendant 2 ans pour faire des études autour de vin également.
J'ai bien l'impression que tu n'as pas trop le caractère pour être la femme de...
non.
Te connaissant un peu, vu ton caractère et ton énergie, je pense que ça n'aurait pas marché. Mais tu as passé... Non mais ils vont m'entendre. Tu as passé ton enfance... en Colombie, c'est ça? Mais comment tu es arrivée en France?
En Colombie, oui, en Colombie, à Bogota. Je voulais pas, on va dire, quitter, commencer ma vie professionnelle en Colombie tout de suite après avoir fait mes études en finance et relations internationales. Donc, j'ai voulu voyager, mais dans ma famille, c'était bien une année sabbatique, mais il faut que ce soit productif. Donc, on me proposait de faire des études et j'ai voulu. Partir dès la Colombie avant de commencer à travailler, comme je disais, et devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Et donc j'ai trouvé un master à Rennes en anglais parce qu'à l'époque je ne parlais pas français. Pareil, tout en finance, pas très original. Donc c'est vrai que j'ai choisi la France parce que je ne voulais pas aller aux États-Unis, l'Australie c'était trop loin, l'Angleterre c'était trop cher. Donc la France c'était un peu par défaut, mais ça a devenu aussi mon pays, ça a devenu l'endroit où on n'a pas fait seulement nos deuxièmes enfants, mais on est en train de tirer nos racines dans la montagne profonde d'Albé.
Écoute, c'est après un parcours scolaire assez désastreux.
Toi aussi?
Oui, voilà, j'ai essayé d'insister sans trop et... Après avoir prolongé le collège, prolongé le lycée et sans obtenir de bac, je suis parti voyager en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Australie, effectivement, en tombant sur... en voulant travailler pour mettre de l'essence dans le van, je suis tombé sur les vendanges dans la région d'Adélaïde. Et c'est à partir de là où je me suis dit, c'est incroyable. Je savais déjà que l'agriculture, c'était quelque chose qui était fait pour moi, mais le monde du vin était encore plus, on va dire, séduisante pour moi, pour son côté, tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est social, tout ce qui est gastronomique, et vraiment tout ce qui englobe le monde du vin et le contact avec les gens, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, écoute, c'est parti, je rentre en France et je recommence mes études, donc... un bac pro en alternance à Beaune, en Bourgogne. J'ai passé quelques années là-bas. Mmh. Et à partir de là, c'est vrai que les choses sont assez stagnantes en Bourgogne, région traditionnelle où, en tant que petit caviste, apprenti, machin, il ne se passe pas grand-chose, tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Et donc, c'est là où je me suis dit, c'est bon, je balance ma démission. Donc, tu as un mois de préavis, évidemment. Je fonce sur Google et je regarde comment est-ce que tu dis vin en roumain, en domaine viticole, en hongrois, en bulgare, etc. Je trouve quelques, je sais pas, une vingtaine d'adresses email, un truc comme ça, dans lesquelles, auxquelles j'envoie mes CV en français, en anglais, etc. Et à mon grand désespoir, mon mois de préavis passe, c'est cool comme ça. Et puis,
personne ne t'a répondu.
Aucune réponse, alors que j'étais chaud patate pour... Justement, tu as toutes ces...
Donc là, il s'est dit, je vais faire The Voice. Hein. Peut-être c'est en ça. Étant influenceur. Je parlais bien influenceur. Ça... Non, bon.
Je n'aurais pas eu grande chance, à mon avis, ni grand succès.
On a déjà du mal à avoir une publication sur Instagram en tant que Maurice Prado, c'est déjà compliqué.
C'est clair. Et par chance, justement, je reçois une copine d'un copain au Portugal qui me dit, je cherche quelqu'un pour ces vendanges, donc 2009. Bim, c'est parti, je prends mon camion, mes affaires, bac, je pars en Portugal. Et à ce moment-là, une fois au Portugal, je reçois une réponse de la Roumanie qui m'oriente vers des gens qui sont en train de construire leur domaine et qui cherchent un œnologue pour ce tout nouveau domaine. Je leur écris en disant, c'est pas possible. Pour l'instant, je bosse au Portugal. Ils me répondent, illico presto, écoutez, on est aussi en vacances au Portugal. 3 jours après, on était en train de boire un café Place du Commerce à Lisbonne. Et en se tapant la main, en disant, on se voit dans 2 mois ou 3 mois. Et c'est un peu ça l'histoire. Je rentre en France. Donc, à ce moment-là, je rencontre Angela.
Attends, je pose la question. Maintenant, on va passer à la rencontre qui, finalement, où Moritz est devenu Maurice Prado, ou Prado est devenu Maurice Prado. La rencontre. Allez, ton regard à toi, parce que t'as le regard amoureux, là. Angela, dis-moi.
C'était pas non plus super. Au début, j'ai rencontré Guylain, donc c'était un copain d'enfance.
Vous connaissiez déjà. Ah, d'accord. Okay.
Un copain d'enfance de Guylain qui s'appelle aussi Guylain, que j'ai rencontré quand j'étais à Rennes. Donc, on avait un ami en commun. Guilla, il a grandi avec lui. Et pour moi, il est devenu mon meilleur pote dès que j'arrivais à Rennes. Et lui, il m'a adopté comme sa petite sœur. C'était mon premier ange gardien que j'ai eu en France. J'en ai eu beaucoup. Et lui, il m'a accueilli. Il était très gentil avec moi. Donc, j'ai passé Noël avec lui. Bref. Et il m'a, évidemment, il m'a présenté tous ses copains. Et donc, ses derniers copains, c'était Guylain. Mais Guylain avait une copine, il voulait partir habiter dans un pays de l'Est, que j'étais où je voulais être, je suis déjà à Paris. Donc, je rencontre Guylain, Moritz, à ce moment-là. J'ai même pas regardé, il était déjà avec une autre nana. Aucun intérêt pour moi, ces gars.
Mais, t'es un coureur de jupons, toi.
Moi, j'ai rien du tout.
Il a un peu bégayé quand
même. On s'est juste rencontré.
On s'est juste rencontré. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, bon courage. J'ai peur. Je dis OK, bye bye. Et après Noël, j'ai passé dans la famille de mon pote. Et il y avait Guylain et toute la bande des potes qui fêtaient tous les ans, les 25 décembre, des Noël ensemble, entre copains. Et je rencontre mon Guylain Moritz et il n'avait plus de copines. Ah, et soudain, il est devenu intéressant. Ah. Et soudain, je me dis, écoute, pourquoi pas, il va partir dans quelques mois. Donc, écoute, une petite histoire d'amour rapido avant qu'il parte, c'est bien. Et 2 enfants plus tard, un domaine plus tard, on est toujours ensemble.
Construction plus tard.
Construction plus tard, on est toujours ensemble. Donc, c'était un peu... c'était pas un coup de foudre, c'était un... Lors de notre deuxième rencontre, là, on a eu le coup de foudre.
Oui, mais la première rencontre, c'était bon, c'est bien, mais ça devait s'arrêter sans... C'était une histoire sans lendemain, c'est ça?
Exactement. Okay. Pour moi, il n'y avait pas de lendemain parce qu'il y a une copine. Ouais. Mais après, comme dit, il n'y avait plus la copine. Il était devenu intéressant. Donc, ces beaux garçons, ces grands beaux gosses...
Là où vous devriez voir les canaux, où vous devriez avoir les images, parce qu'ils ont un regard amoureux avec les deux bambins qui jouent derrière. Je trouve ça magnifique. Tu te rappelles quand tu l'as vu la première fois?
Bien sûr.
Et t'as pensé quoi la première fois?
Qu'est-ce qu'elle est belle.
Ça, c'est vrai. On va dire que t'as de bons yeux, quoi.
Non, et puis c'est vrai que malgré tout, je sais pas si y a beaucoup de personnes de nos jours qui croient encore au coup de foudre, mais moi, j'y crois puisque je l'ai vécu, donc... Voilà, c'est un peu...
Moi, je trouve ça magnifique. Ça y est, j'ai cueilli Guilin, je suis content. J'ai réussi, je suis content. Ça y est, je crois que Guilin est libéré, là. Ça y est. Non, mais c'est bien, c'est des histoires comme ça qui... Parce que, en fait, pour moi, vous êtes un couple atypique, dans le sens où, forcément, une Colombienne qui arrive en France pour faire du vin en Alsace... Je pense pas que je trahis quoi que ce soit en disant que à 10-15 ans, tu te doutais pas de faire du vin en Alsace. Quoi. J'ai l'impression que tu savais même pas ce que c'était Strasbourg. Quoi.
On a quand même la culture générale en Colombie, mais...
Oui, mais bon, ok, d'accord, mais moi tu me parles de Bogota, je sais où c'est, tu me parles d'autres villes, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi. Oui. Et voilà, c'est un peu, même si je pense avoir une certaine culture générale. Mais donc, voilà, le fil de l'histoire est que vous partez en Roumanie, donc vous faites vos affaires en Roumanie, vous apprenez votre métier, et vous arrivez du coup... ici, à Albé. Comment est-ce qu'on arrive à Albé? Parce que, bon, on va quand même resituer que tu viens de Bogota. Donc, ok, t'as de la culture, je veux bien Strasbourg. J'accepte Strasbourg. Enfin, Albé, déjà, un Alsacien, je suis même pas sûr que tous les Alsaciens savent où est Albé. Hein? Alors, comment on arrive à Albé?
Je crois que c'était un côté où j'avais quitté Paris pour joindre Guilin. Au domaine où on a travaillé ensemble en Roumanie, j'ai dit ok, c'est génial comme expérience. Pour Guilin, c'est extraordinaire qu'à ses 25 ans, on lui donne une cave toute neuve pour faire ses vins. Ses propres vins à lui, parce que les propriétaires, ils n'étaient pas issus d'un monde viticole. Il y a beaucoup d'argent, mais pas aucune idée de comment faire le vin. Donc pour Guilin, c'était extraordinaire. Après, le fait qu'il m'en inclut dans les projets, c'était génial. Mais quand on arrivait en Roumanie, il y avait des nuits très obscures, on va dire, dans le sens « qu'est-ce que je fous là ?» Qu'est-ce qui m'a pris? Et donc, on avait toujours ces petites étoiles ou ces petites lumières au fond du tunnel en disant, on va prendre tout ce qu'on peut, on va prendre toutes ces belles opportunités, parce que c'était une très, très belle opportunité. Mais on avait
tu ne te sentais pas le temps, en fait.
Oui, et plus... Ouais, en fait, je n'ai pas quitté la Colombie pour aller en Roumanie. Je n'ai rien contre la Roumanie. Il m'a permis d'avoir notre première fille sur place et des opportunités, un peuple extraordinaire, des vignes, enfin des vins aussi qu'on a réussi à faire, dans lesquels on est très fiers. Mais on n'avait pas... Enfin, c'était pas chez moi, c'était pas chez nous. Et on avait toujours comme objectif rentrer en France, faire du vin. Pour moi, c'était revenir en France. Pas revenir en Colombie, mais revenir en France. Et on avait toujours comme... On regardait toujours les options en Alsace, qui n'existaient pas
beaucoup. Pourquoi l'Alsace?
Pourquoi l'Alsace? C'est un côté où nous, on trouvait qu'il y avait... On voulait plutôt nous installer dans un endroit pour nos prochains 30 vendanges. Ou un endroit où le réchauffement climatique a rendu service, si je peux me permettre de dire ça, c'est très malheureux évidemment, mais un endroit où on pourra subir moins de problèmes que les autres vignobles dans le sud, peut-être, ils voient plus souvent. Donc à ce moment-là, même si pour nous, ça aurait été plus simple aller dans le Beaujolais, au Roussillon, même au Bordeaux, parce qu'on regardait des opportunités, des reprises encore pour... On va dire, pour nous recharger, nous ressourcer, dire « Ok, c'est pas grave, on attend encore 1 an, 2 ans. Bah, » Excuse-moi, 6 ans plus tard. J'ai resté 6 ans, il est resté 7 ans là-bas. Mais on avait toujours comme objectif de revenir. Et l'Alsace, c'était les seuls. Enfin, vraiment, on était hyper têtus. Mon beau-père me disait « Mais regardez ailleurs, au cas où que l'option que vous en avez en Alsace, ça tombe à l'eau. » Non, 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 ça c'est là. Donc, à un moment donné, on regardait comme les bons coins pour les agri-affaires. Des domaines à vendre, des terres à vendre. L'Alsace, il n'était jamais affiché. Et une fois, en 2015-2016, on a trouvé une option à Sulzbach qui a tombé à l'eau. Ouais. Même on s'est déplacé de la Roumanie avec Mathis qui avait 5 mois. Mathis, on
est on parle de toi, oui. Ouais, il a fait la tête de suricate, là.
Et on avait rencontré les personnes... Enfin, bref, on a senti que l'opportunité nous avait filé dans les doigts. Et Guilin a dit... Si on n'est pas sur place, on ne pourra jamais rien avoir. Donc, on a par des contacts. En fait, l'Alsace, c'est un tout petit domaine. Enfin, comparé à, encore une fois, à Roussillon, excusez-moi, merci, un pays viticole très petit comparé à des autres régions françaises. Donc, Guilain, il était OK, on part. Je ne peux plus, on va partir. Et c'est sur place qu'on va trouver des choses. Donc, des amis qui nous ont dit, en fait, je connais quelqu'un qui va partir à la retraite. Et Guilain, citons, en 2017, février 2017, il est rentré en contact avec Gilles Berbec, de Nomène du Rempart, à Dimbach-la-Ville. Quelqu'un qui avait des vignes donc à Dimbach-la-Ville et sur Albé. Et lui voulait commencer sa retraite en se détachant de ses vignes d'Albé. Donc il était d'accord pour qu'on se rencontre. Donc on a donné notre... Il était d'accord pour qu'on se rencontre, rien d'autre. Ouais. Donc on a donné notre démission, on a déménagé en Alsace en juillet 2017, en attendant que la bonne étoile s'illumine.
Vous avez pris un vrai risque, en fait.
En fait, le truc qu'on considère important, tant du
là. Alors, je reprécise, vous avez pris un risque avec un enfant en plus.
Et en plus de deuxième.
Vous avez pris un risque avec deux enfants.
En fait, c'est ça qui est important dans la vie. Et quand on croit dans quelque chose, il ne faut pas avoir peur de pousser l'opportunité. Et nous, on ne voit pas ça comme un risque, on voit ça comme pousser l'opportunité. Tu vois, la déclencher. Ça peut être, effectivement, tu sais, putain, on a effectivement rencontré des personnes qui disent, vous êtes malade, imagine que si jamais...
Moi, j'ai l'impression que c'est votre mission de vie, en fait. Enfin, les Japonais appelleraient ça l'ikigai, mais le côté, voilà, on veut ça, c'est l'objectif, c'est faire du vin, l'Alsace, alors que vous ne connaissiez pas grand-chose de l'Alsace, quoi. Enfin, à part Strasbourg, Lille, Colombage et...
Même
les vins...
C'est effectivement.
Parce que t'es originaire d'où là?
Du nord de Strasbourg, à Reichshofen.
Ah, t'as toujours grandi à.
Une petite partie de mon enfance et avec toujours.
T'as un nom très alsacien quand même.
Ouais.
t'es pas très marocain ou suédois, tu
c'est
vois.
C'est ça.
Moritz, plutôt. Mais Prado, c'est pareil.
Ouais,
ça fait très assez quand même. Hein.
Mais c'est vrai, alors il y avait le côté un peu rapprochement familial au niveau recherche de vignoble parce que. Le côté Alsace, où il y avait mes parents réinstallés en Alsace, ma petite sœur sur Strasbourg, ce genre de truc. Mais la priorité, c'était quand même d'essayer de trouver des vignes et un vignoble qui soit le plus au nord possible en France. Alors, on est quand même pas mal au nord.
En plus, t'es en hauteur.
Et effectivement...
Mes jambes se souviennent.
Et grâce à cette rencontre avec Gilbert, il y avait justement cette option, cette alinéa supplémentaire de l'altitude. Donc, le nord de la France, entre guillemets, hein, la moitié nord de la France, et en plus l'altitude, c'était exactement, ça rentrait dans nos critères de sélection.
C'est vrai que l'altitude, il y en a, hein, pour être reparti de Célesta et remonter, mais ça va, 1h30, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, je m'en suis pas si mal sorti que ça, en plus c'est pas non plus le vélo du siècle, et c'est pas un vélo électrique hein, non plus, faut pas déconner. Hein.
On admire, on applaudit.
Parce qu'évidemment, ils m'ont titillé en disant, oui, mais vélo électrique. Non, nix, on pédale à la semoule. À l'ancienne. Non, mais moi, je trouve que votre histoire est juste magnifique. Cette rencontre d'un autre pays. On arrive à un aéroport, on se dit, on veut une meilleure vie. On se retrouve en Roumanie, puis en Alsace avec deux enfants. Enfin, je trouve que votre histoire est juste exceptionnelle. Et je suis quand même épaté de cette humilité qui vous habite tous les deux, de ce sourire, de cet amour de la vie au final quoi. Et puis moi je vois les deux bambins, ils sont juste magnifiques quoi. Ils sont pleins de vie, mais enfin bon, des enfants qui ne sont pas pleins de vie, c'est quand même pas vraiment normal hein.
Peut-être qu'on redescendra à pied parce qu'ils sont en train de casser la voiture.
Faites des bêtises. Bon, pas trop non plus mais. Alors on est à Albé. Donc vous avez fait vos premières cuvées, le premier Petnat est sorti en 2020, c'est bien ça?
Oui.
En 2021.
C'est le millésime 2020, ok.
Mais le premier millésime est 2018.
Le premier millésime est 2018. Comment est-ce que... C'est quoi, Albé, c'est quoi? C'est quoi ces terroirs? Parce que bon, c'est pas sur la route des vins directs, hein. On va pas se raconter, c'est pas très touristique. Pourtant, c'est un beau petit village. Hein. Moi, je trouve que la montée, là, quand tu reviens de Villers, je trouve ça très, très agréable. C'est quoi les terroirs?
Alors, on est en tout cas sur notre vignoble, sur nos 4 hectares, 85 de vignes que l'on exploite. Ouais. On est à 100% schiste, donc des sortes de schiste bleu comme ça, à pH acide, qui sont un peu noirs. Tu sais, ça dépend un peu des parcelle, mais tu as la majorité, surtout le Sonnenbar, où on a une grosse parcelle.
Donc là, on est au Sonnenbar, là, il n'y a que du schiste.
Sonnenbar, exactement.
Et tout le... Okay.
Exactement, il y a des bails à certains endroits de la parcelle, tu es sur la roche. Enfin, il y a même la vigne galère à y pousser, les systèmes racinaires, et tient pas à grand chose, etc. Et effectivement, c'était aussi connu pour ces vieilles mines de charbon. Donc sur certains endroits, il y a pas mal d'anciennes entrées de mines de charbon. Et enfin bref, c'est assez.
Parce que bon, le schiste, on est d'accord, c'est le caillou noir,
voilà,
c'est un peu volcanique, c'est un peu l'argile, voilà, mais qui ressemble beaucoup à une pierre volcanique, à de la lave, mais qui est juste un peu plus plat, c'est bien ça?
En fait, à la base, les schistes, c'est l'argile fossilisée, donc c'est l'argile qui a très vieille argile, qui a subi enfin après les mouvements tectoniques, il était enterré, il a subi des températures très très importantes. Et à un moment donné, encore une autre fois, quand les massifs sont créés, les schistes, il a sorti en surface à nouveau, mais surtout au sommet des collines. Beaucoup au sommet des collines, donc c'est vrai que nous, on se trouve avec un terroir semi-guilain, pauvre entre guillemets, mais que la vigne, elle aime bien. Donc ces côtés où la vigne, elle va être forcée aussi à percer la roche, et c'est ça qui est chouette avec les schistes, que les schistes, elle est friable, donc il a une espèce de millefeuille qui permet à la vigne de les transpercer, de les percer et avoir l'extraction de toutes ces beautés au niveau des minéralités. Donc là, on se trouve, c'est un petit village, comme tu disais, un petit très charmant village qui n'est pas très connu encore, mais qu'on trouve qu'il y a tout à fait, il a tout pour être connu pour des bons vins, mais pas seulement les nôtres, mais on encourage beaucoup des nouveaux vignerons qui viennent s'installer ici. C'est un peu les meilleurs secrets gardés de l'Alsace, ou même si on n'est pas sur la route des vins, il y a un côté, comme on dit, le réchauffement climatique a rendu service, l'effet qu'on est en montagne, on arrive à avoir de la fraîcheur, on est en décalage par rapport à la route des vins, ou pas, plutôt à la plaine. Au niveau des vendanges, enfin, on a des vendanges plus tardives, donc on arrive à... Enfin, il y a plein de choses super intéressantes que je vous encourage à venir.
Donc on va à l'école avec la luge, c'est ça, en hiver?
En hiver, ça nous arrivait pourtant. Et pas beaucoup de temps, mais on a eu la chance de le faire l'année dernière, l'hiver 2020-2021, donc c'était chouette.
Le fameux hiver.
Le fameux
hiver. Mais c'est vrai que le schiste, je salue tous les sages, tous les protecteurs du Schifferberg, je l'ai dit. Je l'ai prononcé, voilà, comme ça je suis en paix avec tout le monde. Non, mais c'est vrai que on va pas se raconter d'histoire. Le schiste amène quand même quelque chose au vin de différent, le grès aussi. Et c'est vrai que le schiste a ce côté un peu plus vertical, un peu plus ciselé, un peu plus... La taque, elle est franche, hein. On sait qu'il est... Voilà, pour moi, le calcaire, c'est un peu... celui qui tourne autour du pot, tu vois. Le schiste, il va être droit, il sait qu'il est là, et il fait pas de la dentelle, hein. Il est plutôt fier, c'est plutôt le chêne, tu vois. Mes images représentent bien le schiste. Qu'est-ce que ça apporte au vin, le schiste, justement?
C'est vrai que ce qu'on décrit souvent pendant les dégustations pour ce côté un peu plus, pas pédagogique, mais au niveau gustatif, c'est qu'on ressent souvent ce côté salinité, ce côté iodé, et en texture, parfois, que ce soit des Riesling, des Pinot Gris, ce genre de choses, tu développes une légère astringence. Sur la fleur des papilles de la langue, tu as justement cette légère astringence, et sur le côté justement qui développe, le côté de la langue, ça développe ce côté salin, et qui est exactement le même effet que quand tu lèches. Alors, tu prends un caillou de schiste et tu t'amuses à le lécher. On faisait ça avec un copain là, pendant les bourgeonnages pour se rendre...
Vous léchez des cailloux, vous.
Ouais, c'est l'air de la
Apprends
montagne.
Apprends à cuisiner, non?
L'air de la montagne, ça te donne des idées.
Vous fumez quoi, là, dans votre coin?
Et effectivement, voilà, c'est exactement ce que tu retrouves dans un Pinot Gris, là, le terrasse des Steinacker, où t'as cette sensation légère, t'as cette tension déjà premièrement, et légère astringence sur le haut de la langue, et t'as le côté des papilles de la langue qui s'arrondit justement sur ce côté iodé. C'est assez représentatif. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas parler d'Alvé sans parler de ce côté montagne. On est toute nouvelle, je suis entre 400 et 500 mètres d'altitude. Et donc, on est déjà classé vignoble de montagne. Et
c'est... Oh, c'est marqué en l'entrée du village. Ça m'a fait sourire, d'ailleurs.
C'est ça. Il ne faut pas dire ça à un Savoyard ou à un Savoyard. Mais effectivement, on ressent, comme disait Angela, cet impact par un décalage du débourrement, un décalage de floraison et donc forcément un décalage de la vendange entre 10 et 15 jours.
Après la plaine, c'est
ça? Bien sûr, ouais, après la route des vins. Et souvent, ça tombe à des moments encore plus propices que, par exemple, quand tu as des vendanges déjà un petit peu estivales, que ce soit fin août, début septembre, eh ben, chez nous, ce sera plus mi-septembre. Et parfois, à 15 jours près, ça change.
Votre cycle est encore, entre guillemets, normal?
Oui, voilà.
Ça accélère pas même. C'est vrai que on a peut-être moins le. Alors c'est vrai que on est en montagne. On le sent de façon. Prenez le vélo, les enfants. Hein. C'est bien de venir en voiture. Hein. Vous allez le sentir, mais ça fait du bien. Et en plus, vous avez la chance parce que vous tombez sur des villages. À un moment donné, tu savais même pas où j'allais. C'était Tanvillé.
Tanvillé.
Jamais entendu parler de Tanvillé. Donc, je me suis retrouvé à un moment donné, je voyais un village. Ah, c'est pire, je suis à Villé. Ah non, c'est Tanvillé. C'est pas le même. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a une région qui est magnifique où tout est beaucoup de choses sont faisables en train, beaucoup de choses sont faisables en vélo. Je vais quand même dire aux gens, sécuriser les pistes cyclables, ce serait pas mal entre Villé et Célestat. Ce serait quand même pas trop mal. Mais, quand on regarde maintenant, allez, on se met un peu au-dessus, ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes là. Vous dites quoi tous les deux?
Je crois que ça nous arrive un peu de partager ça en disant tout le parcours. Parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Donc, c'est vrai que quand on l'est dit ou qu'on l'entend, il y a quand même un côté de fierté, j'ai envie de dire. Et d'être rassuré aussi parce qu'il y a un côté super naïf, optimiste quand on s'élance dans l'entrepreneuriat. Mais quand on s'élance vraiment des zéros, on n'avait même pas un hectare de vignes ou une maison sur place. Donc c'est vrai qu'il y a eu un côté inconscience et un côté les bonnes étoiles qui nous ont illuminé le chemin. Les anges qui sont venus nous donner des coups de main, la bienveillance des personnes qui ont été autour de nous. Et après des hard work, le côté des hyper travailleurs.
Vous êtes spirituels tous les deux?
Il y a un côté spirituel.
Pas forcément spirituel.
Religieux, mais spirituel. Enfin, je me considère.
En fait, je pense que ce genre de spiritualité, ça rejoint, c'est comme pousser l'opportunité. C'est il faut croire dans sa chance. Tu vois. Ce côté d'ange gardien, ce genre de choses.
Vous êtes les Raphaël Nadal du vin, c'est ça?
Mais je vois qui je mec, mais je connais pas son parcours.
En gros, il faut y croire. Il y a une chose qu'il faut quand tu te lances dans un projet, il faut y croire.
Tu doutes?
Quand dans les moments difficiles, tu te dis mais qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce que machin, et le lendemain ou même quelques heures après, quand tu vois que tu prends un peu de recul, tu te calmes, tu respires, etc. Tu commences à reconnecter un petit peu quand t'es dans les vignes avec les vignes, quand t'es au bureau ou des choses comme ça avec un petit peu le projet de construction, ce genre de choses, tu fais ah ouais, je sais pourquoi je l'ai fait. Et là tu reconnectes avec l'idée initiale et tu continues à y croire.
C'est vrai que quand je suis arrivé, tu m'as confié en fait 2022 c'est une belle année où il y a plein de choses, il y a un projet, il y a un nouveau chez qui est en train de se construire qui est juste magnifique. Je pense que je vais dormir sur la terrasse. Je vais m'inviter en vacances, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, voilà, bon, après, t'as les enfants, en plus, t'es aussi engagé dans l'AVLA, donc forcément, tout ça, ça prend de l'énergie. Mais quand tu te poses, là, tu te poses, on est tranquille. Quand tu regardes, c'est magnifique ce que vous avez construit.
C'est magnifique. À la fin, je crois que c'est le moment où on a. Oh, c'est pas si loin que ça, la semaine dernière, on va exploser, Guylain explose, moi j'explose, on va dire, mais pourquoi on a fait ça? Personne nous a poussé à faire ça, on était bien avec nos petits salaires, comme on était là, et après on dit, non, en fait, on a, comme disait Guylain, être reconnecté à nouveau avec ce qu'on a, ce qui nous fait vibrer, faire comme on a envie, toucher la vigne comme on a envie d'être à travailler, faire le vin comme on a envie de le faire, être libre, nous sommes libres. Nous sommes libres d'écrire.
D'où le nom du vin.
Des noms, des vins, oui. Donc on est libre, pendant que j'ai payé la banque, tout va bien. Mais à la base, on a cette liberté qu'on s'est permis de l'avoir aussi, parce que je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et quand on se reconnecte à ça, ça, on peut respirer à nouveau et revoir. C'est comme si on a, limite on enlève la saleté de tes lunettes et tu dis « Ah ok, la lumière est là, arrête de te noyer dans un verre d'eau, tu as la chance, tu as la santé ». Les enfants, ils sont au top, on travaille, on a la chance de voir que nos vins, ils prennent leur place. Donc, c'est seulement un choix qui est relativisé et dire, voilà, encore une autre fois, on a des lumières partout et c'est ça qui est beau.
On retourne dans la finance ou quoi?
J'ai déjà eu, heureusement, ça m'a rendu la tête.
Oh, le visage. Oh là. Alors là, c'était un emoji. Elle m'a fait un smiley en train de sourire.
Elle a inventé un emoji.
J'ai senti le dégoût du truc là. Là, c'est. En fait, t'as choisi la vie que tu veux, quoi.
Ouais.
Comme dirait, je répète, les Japonais parlent d'ikigai. Je pense que tu l'as trouvé, ton ikigai, ta mission de vie, tu l'as trouvé. C'est finalement les vins et bon, les deux chenapans qui sont là derrière. Ça c'est une mission pour l'éternité, ça, je pense. Hein. On va pas se raconter l'histoire. Moi, je pense qu'on devrait passer à la dégustation, ça vous dit?
Tout à fait d'accord. Il fait chaud.
Il fait chaud. De retour dans. Alors, on est de retour. Alors, on déguste. Alors, je vous avoue que, bon, souvent, moi, j'ai la chance de manger avec nos amis vignerons. Et donc, on a déjà goûté pas mal de choses, de bonnes choses. Et ça se fait ça se fait de plus en plus. Et toutes ces rencontres sont toujours incroyable, moi je suis toujours ému de voir cette sincérité et cette beauté qu'on a en Alsace. D'ailleurs, on vous rappelle, hein, mais on vous le dira souvent, de toute façon jusqu'au 11 juillet, vous allez être bombardés. Hein. Il y a, qu'est-ce qui se passe dans quelques jours? Il y a là
Sommerfest, Fest ou Fest, après ça dépend 67-68. Moi je suis colombienne, donc je dis la Sommerfest.
Moi je dis Sommerfest, bon ben voilà. en tout cas, on va s'éclater, on va faire la fête pendant... On en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs, on va enregistrer un petit truc sur la Sommerfest, comme ça tout le monde sera content et moi aussi. Place à la dégustation, du coup, on a cette chance-là de déguster beaucoup de vin, et je crois que... On va goûter un peu de schiste, et rien que les schistes, moi je suis content, parce que ouais, j'aime beaucoup ce terroir-là. Je vous propose que chacun parle un de ses vins, voilà, présente un vin, bah, je vais commencer par toi.
Super, bah écoute, c'est les terrasses du Steinacker, donc on a 2019, donc on a un Pinot Gris, mais au-delà de ça, c'est ça, on voulait vraiment amener ces côtés terroir, donc c'est une parcelle qu'on a à 460 mètres d'altitude, on est ici de forêt. Donc, c'est une parcelle qui a été plantée par l'ancien propriétaire dans les années 2000. Lui, il avait une vision pour cette parcelle et il a mis tout à fait à vie, on va dire, il l'a rendu possible. Donc, c'est des terrasses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il a vraiment creusé la montagne. Donc, on est vraiment assez haut de sommet de cette petite montagne ici. Donc, ce qu'on a décidé de faire en 2019, c'était on va dispatcher les vins après le pressurage en grappe entière, un tiers cuvinox, un tiers demi-oui bourguignon, donc un barrique un peu plus grand pour que l'impact des bois soit pas trop important, jamais des barriques neufs, donc on l'a acheté d'occasion. Et les troisième tiers, donc, en amphore, donc on travaille avec des amphores hongrais. Il n'est pas enterré, notre objectif c'est avoir ces côtés des micro-oxygénations comme avec une barrique sans l'échange des goûts. Donc on fait des fermentations et des élevages, celui-là a subi un élevage dès 11 mois, en amphore et en barrique, et après on les assemblait les trois méthodologies de vinification. Donc pour nous, l'objectif c'était de pas mettre le barrique en avance ou l'amphore en avance, mais plus de les marier dans cette espèce de trio magique pour permettre au terroir, au Steinacker, donc le champ de roche, le champ des pierres, à débriller. Donc évidemment 100% schiste, et on va pas sulfiter, on va pas filtrer, donc m'amener quelque chose des quand même frais, donc on a, pour moi c'est pas un Pinot Gris, c'est un Steinacker, c'est le terroir qui a envie de parler, donc c'est côté ciselé des schistes salins, mais tout à fait suave d'un Pinot Gris, donc c'est ces côtés où ça me fait saliver quand je l'ouvre.
Moi je trouve que, bon, alors il y a un toucher de bouche qui est incroyable, une énergie qui est qui est juste, c'est pour moi c'est un très 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 beau vin. Bon, après je le connaissais déjà, mais c'est vrai que c'est comme certains vieux films que tu vois 100 fois, 10 fois, 1000 fois, tu les redécouvres et à chaque fois tu as une belle émotion. Et alors moi qui suis très sensible au pinot gris, que ce soit en presse directe ou en macération, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Je trouve que ce vin est d'un velours, d'une finesse, mais il va droit devant. Hein. C'est du schiste, hein. On le loue pas. Pour moi, c'est un très beau vin, un très grand vin. Et encore une fois, on n'est pas sur un grand cru. Donc, à Conquoi, mon grand cru, premier cru, finalement, tout ça pour moi, ce ne sont que des étiquettes et rien d'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Surtout, mais...
on est complètement d'accord. Surtout que, par exemple, sur, on est un peu complètement des outsiders par rapport au monde traditionnel alsacien, par notre histoire, que par nos connaissances et notre position géographique, c'est clair. Tout ce qui est grand cru, on n'en rêve même pas à Albé. Tu vois, c'est des appellations, on sait que...
Là, t'en as pas besoin, franchement, avec ça...
Ouais, bah c'est pour ça, tu vois, c'est d'autant plus, c'est quelque chose qui...
C'est je pense que même, il y a une acidité qui est en fin de bouche, mais qui est agréable, qui est même pas... Bon, parfois, t'as des acidités, même dans le mal nature, où tu te dis, on est... parfois quand même plus proche en miné, enfin non plus raconté. C'est pas parce que c'est nature que c'est bon. Je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de cette vieille lune, de dire ah parce que c'est nature que c'est bon. Non, je pense qu'il faut quand même une certaine maîtrise dans le vin, même si c'est nature, surtout
si c'est nature. Surtout si c'est nature. Ouais.
Et là, on a cette maîtrise là, on a le. Enfin, j'ai l'impression quand même, je l'ai déjà goûté, mais j'ai l'impression que je redécouvre vraiment. Alors il goûte mieux que. Alors, je commence à croire vraiment qu'il y a des jours où les vins goûtent mieux. Et là, c'est vraiment, c'est 100 jours en fait. Là, c'est le feu d'artifice, quoi. C'est 14 juillet, on bouche, il y a tout qui s'allume. Le nez, les yeux. Je trouve que c'est un très grand vin. C'est un très beau vin.
Merci.
Et honnêtement, ouais, le dernier qui m'a donné, ouais, il y a plein qui me donnent des émotions là, hein, mais moi qui suis très protecteur du Pinot Gris, parce que c'est un petit peu bon, il y a Sylvaner et Pinot Gris pour moi. Voilà, après c'est vrai que là c'est. Ouais, belle émotion. Tu peux choisir un domaine.
Moi je changerais pas, moi.
Tu changerais pas ?
Je changerais pas non plus.
Non ?
Je changerais pour rien au monde en fait.
Vous enviez personne.
Bon, en fait, parce que ce qu'on est maintenant, c'est. On a transformé. Ce qu'on avait dans nos têtes en réalité.
En fait, c'est peut-être bien le modèle du bonheur.
Hein. Non, c'est notre bonheur.
C'est adapté à chacun.
Chacun y a son bonheur à lui, mais je crois que c'est maintenant qu'on commence à avoir la montée de tous les efforts qu'on a fait, de commencer des zéros, commencer avec un sécateur, chercher les matériels pour vinifier, changer des matériels pour continuer dans les vignes, voir nos enfants grandir dans les vignes, pouvoir construire. Je crois que c'est maintenant que je dis bah, oh putain, je peux dire gros. Pardon. Pardon.
Et... J'en ai dit devant tes enfants, je vais dire, c'est
mais j'ai dit, ah, mais c'est maintenant qu'on va pouvoir récolter tous ces fruits. Maintenant, la vendange de nos. Enfin, c'est pas maintenant, ouais, tous les jours on a une petite vendange, mais maintenant avec la construction, pouvoir être dans un seul site, pouvoir passer plus de temps avec nos enfants pendant qu'on travaille, ou travailler plus facilement aussi. Enfin, nous, on doit allumer un groupe électrogène pour sortir l'eau, pour... donc ça, on travaille avec les ongles, tu vois, donc c'est un peu. Là, c'est... on a passé par ça, maintenant on peut. On est en train de monter la crête et c'est pouvoir ça. Éventuellement planer. Donc, j'ai la partie la plus difficile, je touche des bois, vraiment, parce que l'univers, on ne sait jamais. On a passé des côtés très difficiles. Donc, je crois que maintenant, on est en train de toucher ces bonheurs, ou en tout cas, c'est qu'on avait projeté comme bonheur.
C'est proche, ouais.
Donc, je suis d'accord. J'ai rejoint Guilin, je ne changerai pas.
Alors, il me reste trois questions. La première, Guilin, qu'est-ce qu'elle t'apporte ?
Qu'est-ce qu'Angela m'apporte ? Bah, l'équilibre dans la vie.
Je te pose la question inverse. Qu'est-ce qui t'apporte ?
Criminel, merci. La force.
La force ?
La force. Il a une force tranquille. En fait, il a une force douce.
J'ai l'impression qu'il est très, très zen, très méditatif. Hein.
Mais c'est quelqu'un de très aussi d'équilibré. En fait, c'est mi-juin, comme Guilin, que je sois grande.
Enfin, moi, je le voyais comme quelqu'un timide. Et en fait, finalement,
absolument
pas tant que ça. Plutôt réservé, je dirais. plus discret.
Le temps.
C'est plutôt une souris qu'un tigre.
Lui, c'est quelqu'un qui est. Ouais, c'est, voilà, cette force tranquille. C'est comme cet ruisseau qui peut percer et créer des chemins.
Et. J'ai trois. Alors, je ne vous connais pas. Si vous deviez me donner trois. Si vous deviez présenter trois cuvées. D'accord ?
À vous.
Pour vous présenter comme carte de visite.
Comme carte de visite.
Là, si vous devez me dire, voilà, ouais. Toi, pour me connaître, il faut goûter ces trois vins, ce serait quoi ?
Bah déjà, moi, je chercherais un petit peu à te connaître. Est-ce que tu me donnes des signes de ce que tu aimes pour ouais. te faire plaisir ?
Ouais.
Ça, ce serait la première des choses. Et en fonction de ce que tu aimes bien, je t'orienterai.
Ah, mais la réponse, elle me convient pas.
Tu es généreux, lui. Moi, je décide pour toi, je n'ai aucun problème.
Et du coup.
Et moi, j'irai. Moi, l'été est là. Moi, j'ai envie de te faire goûter un pétnade parce que c'est l'été dans Saint-Bert. Ouais. Dans son bouteille, pas assez grand parce qu'on n'a pas fait de magnum, je suis désolée. Au moins, en tout cas, en 2021.
Ah, donc ça veut dire que ça arrive avec mais... forcément un nouveau chez Magnum.
Carrément,
on va en faire une soirée Magnum. Alvé, moi je me dis, on va les rendre dingues.
Oh, trop bien. Et là, je vais faire aussi te faire goûter un Crémant millésimé. Ouais. On ne sort pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup. 2018, ouais. 36 mois sur latte. Ouais. Pinot gris, pinot noir. Ouais. Parce que pareil, c'est des bulles et c'est festif et c'est ouais. facile et c'est optimiste et c'est joli.
J'ai déjà eu la chance de goûter, c'est vrai que. Mais.
Et attends, tu m'as dit trois, je suis désolée. Oui, hein. oui. Et mon troisième vin, bah, je te ramène aussi à nouveau. Oh, ah tiens, j'ai. Ouais, mais je me répète, tu vois. Non, le Steinacker.
Bah, et on se répète. Le
Steinacker, bah ouais, c'est ça.
Non, mais Steinacker, de toute façon, il est dedans. Et moi, les deux là, celui-là et celui-là. Aussi, ah bah tous, hein, les quatre là, moi.
En fait, tu as milité pour les Schifferberg et pourquoi ouais. pas, je vais faire un petit clin d'œil. Donc, c'est Riesling Schifferberg. Donc, ce n'est pas des vignes à nous, c'est des vignes qu'on achète à une extraordinaire.
Tu as du Riesling Schifferberg ?
Maintenant, on a des raisins grâce à une
extraordinaire
Gaston Breton qui travaille ses vignes très, très bien.
C'est récent, Riesling, non ?
C'est, les Riesling, on les travaille depuis 2018. D'accord. Donc, maintenant, on travaille avec elle. Okay. Donc, quelqu'un aussi qui travaille en bio, en biodynamique, une fille qui a la pêche, qui a la banane, qui a tous les fruits de la salade. Enfin bref, elle est pareil, remplie de joie. Et c'est aussi une petite ange qui a tombé et qui nous accompagne maintenant dans notre parcours. Et j'ai envie aussi de rétribuer ça. Donc, pourquoi pas, j'amènerai aussi, même si ce n'est pas d'Albé, c'est des Reichfeld, mais on a le plaisir de pouvoir travailler ces récents.
Je voudrais que vous me fassiez le plus beau gueuleton. Vous me racontez votre plus beau gueuleton, avec qui vous mangez, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, le lieu, où, et pourquoi.
C'est quoi un gueuleton ?
Un gueuleton, la plus grosse bouffe. Alors, vous avez le droit de des gens qui sont plus là, des gens qui sont encore là. Voilà, ce que vous aimeriez, vous, qui pour vous serait... là. Aujourd'hui, vous êtes vigneron, vous avez passé toutes ces étapes. Repensez à la Colombie, l'arrivée à Paris, la Roumanie. Et là, vous êtes là et il y a peut-être des gens avec qui vous auriez aimé qui ne sont plus là. Et c'est malheureusement la vie qui veut ça. Mais voilà, présentez-moi votre plus beau gueuleton.
Moi, c'est facile, et j'aurai le cœur qui ira droit au but. C'est avec Robert Vernizzo, c'est mon maître de stage, ouais. maître d'apprentissage, c'est mon sensei en matière de vinif, pinot noir et tout.
Ton Miyagi, maître Miyagi à toi.
Ouais, exactement. Et on boufferait du graton en buvant un pinot gris, en se faisant des rillettes de sanglier.
Il est toujours vivant ?
Il est encore vivant.
Et donc c'est faisable.
C'est tout à fait faisable, et justement chaque fois qu'on le fait, on prend un plaisir incroyable à le faire. Et à chaque fois qu'on fait ça avec des collègues et des copains vignerons d'Alsace, c'est juste un vrai plaisir. Avec tous ceux de Lavla, casse dédiée, et c'est juste un bonheur. Partager ses valeurs avec ceux qui rencontrent parfois les mêmes problématiques, parfois d'autres problématiques, peu importe, tu vois.
On mange quoi ?
Qu'est-ce qu'on mange ? Ouais. Eh ben, on mange plein.
Là, on boit.
on mange des gratons. Donc... Encore une fois, je suis très arrêté sur ça, mais on mange du speck, on mange de la charcute, effectivement, du saucisson, des salaisons, mais aussi tout ce qui est végétarien. On peut manger
Me sors pas ton foie gras végétal, hein, parce que non, je, crois, je pars en courant.
Un truc simple, tu vois, caviar d'aubergine.
À la roumaine.
Bien sûr, les aubergines en saison, hein, pas hors saison, on précise.
Mais bien sûr. Ou en conserve.
Française, pas espagnole.
Et des quiches et des, je sais pas, des salades fraîches, tu vois. Des... On est en été, là, il faut y aller, là.
Angela, toi.
Moi, c'est une table assez longue, bien remplie de ma famille.
Moi, je sens de la bouffe colombienne qui va arriver.
Oh, oui, les empanadas. Des empanadas colombiennes.
Ah oui.
Ça, c'est frites.
Et alors, je connais les empanadas argentines et chiliennes, mais je connais pas les colombiennes.
Les colombiennes, c'est la farine, c'est à maïs. C'est une farine de maïs qui est en frit, on met pas au four. On va les frire. Et on fait des ají, donc c'est à la base des tomates, des oignons, des échalotes. Donc c'est super simple, mais c'est super bon. Avec ma grand-mère, comme je disais, qui est plus là, mais qui j'aurais adoré partager ce qu'on fait, parce que c'est trop... elle est très fière de nous, je le sais. Ma famille qui est loin, bah, et des copains. Je vois que c'est qu'on aime bien de notre travail, c'est le côté partage. J'imagine une longue table ici dans les vignes avec ces magnifiques paysages dans les terrasses de Steinacker tout au rond. On amène toutes les personnes qui sont en envie de venir et partager. La table est ouverte à tout le monde. Donc, je crois que c'est le partage, les côtés qui me plaît le plus de notre boulot. Partager des quilles avec des nourritures très simples, que ça peut être des empanadas, des gratons. Je n'aime pas le graton par contre. Mais des choses simples dans la vie, un beau paysage, des bons quilles, une belle compagnie.
T'as pas besoin de beaucoup.
T'as pas besoin.
Juste d'être bien entouré.
Oui, la simplicité, ça suffit. Et puis, chapeau derrière, c'est bien aussi. Comme c'est toujours, je déteste les fins de podcast. Ça fait 2 ans que j'en fais. C'est toujours une certaine émotion parce que je trouve que j'ai de la chance de faire ce que je fais et de mettre en lumière des gens que j'aime profondément, pour qui je me bats. Alors souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu te bats pour la somaphage, tu distribues des tracts, des affiches, mais parce que j'aime ces gens-là, tout simplement. » Et parce que... Est-ce que vous avez passé un bon moment ?
Excellent. Merci beaucoup pour les partages et nous permettre de partager notre histoire, notre parcours, et bah, surtout avec ces belles journées.
Et tu reviens quand tu veux.
Bah, je viens, mais même sans micro, je viens. Ne vous inquiétez pas.
C'est le but aussi.
Et parce que j'aime ces moments de partage. Moi, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de dédier cet épisode à ta grand-mère, si tu me le permets. Parce que je pense que on a tous quelque part. Moi, je suis très attaché à la mienne aussi. Donc, je pense qu'on a des moments comme ça, des moments suspendus qu'il faut. Je pense que donnons de l'amour aux gens, n'oublions pas qu'on est là parce que finalement, bah, on fait juste du vin. C'est juste ça. On fait juste du vin, on donne du bonheur aux gens. Moi, je vous souhaite le meilleur parce que votre rocher, putain, qu'est-ce qu'il est incroyable. Je veux mettre ma tente sur la terrasse. Je veux me poser sur la terrasse là. Honnêtement, je vous aime. Voilà, je vous le dis, c'est des gens incroyables. Continuez votre histoire. De toute façon, mon soutien est là. On se verra ailleurs, ici. Donc, on va continuer à trinquer. J'ai vraiment du mal à finir les épisodes. Il va falloir que j'ai fini. comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Vous savez parler alsacien un peu, les gars, là ?
Non.
Voilà, attends, viens.
Tiens.
Je bois du vin ?
Non.
Non, juste sentir. Mais
sans l'alcool,
tu sais comment
effectivement.
Tu trinques avec moi ou pas ?
Avec Chin.
Avec Chin.
Eskilt.
Eskilt. Ah, c'est Eskilt. Le plus beau. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.